DFM。Bonjour à tous et bienvenue à ce 61e épisode du Bulletin F1. Ici Marc-André Fortin à l'animation pour une deuxième fois depuis l'absence d'Abdou. La semaine dernière, moi-même, j'étais absent, alors Anna Maria avait pris les rênes de belle façon, vraiment. J'ai aimé l'épisode de la semaine dernière. Alors, et je l'accueille justement, Anna Maria. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, on a réussi.
J'ai réussi la technique avant notre l'enregistrement de ce podcast a été un petit peu capricieuse avec nous, mais heureusement, nous avons réussi à reprendre la technique et pouvoir enregistrer le podcast. Donc, nous sommes assez heureux d'être de retour. Donc, au menu cette semaine, c'est un menu un petit peu moins chargé qu'à l'habitude, mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir beaucoup de choses à dire parce que nous allons revenir sur la dernière le dernier calendrier qui a été donné par la Formule 1 hier. Alors, ils ont lancé leur calendrier provisoire qui est assez chargé, disons. On va y revenir. Mais c'est étonnant de voir que la Formule 1 et Liberty Media lancent un tel calendrier. On va y revenir. Et tout juste après, nous allons avoir un petit débat qui va concerner une certaine Mercedes et ses performances. Je ne vais pas plus vous donner de détails, je vais vous garder un peu en haleine. Mais commençons, Anna Maria, par ce calendrier de la Formule 1 qui, en 2021, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec la pandémie, mais j'ose croire qu'elle ne sera pas terminée. On est toujours à la recherche d'un vaccin. On cherche toujours un moyen de se sortir de cette pandémie mondiale, mais pour l'instant, la Formule 1 et Liberty Media lancent un calendrier de 23 Grands Prix. Est-ce que tu es étonné de la manière dont la Formule 1 lance son calendrier pour l'an prochain?
Je suis comme surpris que ça soit si tôt qui fait le calendrier, mais quand même, je trouve que c'est bien parce qu'il faut avoir été préparé à l'avance. Mm-hmm. Au moins, il fait son calendrier avec 23 courses, même s'il y a une course qui n'est pas. On ne sait pas, ils ont mis comme rien, mais ouais. Ils ont mis la date quand même. Mais c'est bien parce que comme ça, ils s'assurent d'avoir la suite, de rester avec les sponsors, avec tout ce qui va avec aussi. Et il y a eu des courses qui se sont annulées cette année. Ils se sont annulées ou déplacées, c'est comme pas quand même la même, presque ouais. La même affaire, mais qui sont déjà mis dans le calendrier, comme je trouve l'Espagne, le Mexique, il y avait aussi Brésil. L'Espagne n'était pas annulée, mais était comme déplacée, mm-hmm. parce qu'ils ont fait la course, mais à huis clos, ça veut dire qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de billets, il n'y a rien qui rentre pour celui qui fait la course. Parce que ils ont mis comme les courses qui sont déjà c'est déjà ils étaient signés qu'ils vont ouais. la faire, c'est ça. Au moins ils ont fait des courses qui étaient déjà signées, ils ont compromis avec qu'ils essayent de faire ça. On s'attend aussi que il y a la pandémie, on ne peut pas l'ignorer non plus,
mais ça fait partie de nos vies, fait.
On ne peut pas l'ignorer, mais au moins il y a un vaccin qui est annoncé, ça change un peu la
donne. Ça avance un peu.
Oui, ça avance un peu, ça va être pas tout suite, mais comme je vois Canada, par exemple, l'année passée, et cette année, je retourne l'année passée, cette année, si on finalement aurait fait la course comme elle était prévue, peut-être ça aurait marché. Parce que c'était tranquille et il n'y avait pas beaucoup de cas. Fait que je trouve ça, c'est bien que ça commence à quand ça commence l'été, parce que l'année passée, quand ça commençait l'été, il était correct.
Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, et on va décortiquer le calendrier peut-être un petit peu plus tard, mais ce qui m'étonne énormément, c'est de voir que le Canada est toujours entre l'Azerbaïdjan et les Grands Prix de France dans les conditions qu'on connaît où il est possible que les pilotes se doivent de passer par une multitude de tests, peut-être même une quarantaine dans certains pays. Donc, de voir que le 13 juin, il y aurait un Grand Prix. Le 6 juin, pardon, il y aura un Grand Prix à Azerbaïdjan et le 13, une semaine plus tard, en changeant de continent, nous arrivons au Grand Prix du Canada. Ensuite, il y aurait la France le 27 juin. Donc, ça donne 2 semaines de congé. Mais ça, est-ce que ça t'a étonné de voir que le Grand Prix du Canada est encore une fois entre l'Azerbaïdjan et la France ou pour toi, c'est assez normal?
Pour moi, c'est normal parce que je trouve qu'on ne devrait pas faire normal la pandémie. On devrait prendre cette année comme étant pas normal. Fait que si on doit se préparer à l'avance, au moins on sait déjà avec quoi on a. L'année passée, on était un peu à... Ben, l'année passée, j'ai dit l'année passée.
On dirait que ça fait des années qu'on est
Mon
là-dedans.
2020 était fini. J'ai déjà fini mon 2020, je vais passer autre chose, c'est ça. Mais c'est bien, je trouve que c'est bien que j'ai mis un calendrier normal. Pourquoi? Parce que pour moi, personnellement, il faut que ça soit pas normal. Qu'est-ce qu'on fait cette année? Parce que il faut qu'ils reprennent les choses comme ils étaient avant. Peut-être avec plus la sécurité. Et faire attention et tout ça, mais au moins essayer d'être un peu plus normal. Et c'est ça la calendrier. Pour moi, l'été à Montréal, ça commence avec les Grands Prix. Et cette année
Ah.
était dur. Pour moi, il n'y avait pas d'été parce que regarde qu'est-ce qui s'est passé. Mais que
Oui, c'est
j'espère que
complètement vrai.
oui,
Ah.
ici, l'été est chaud. Pour moi, me bronzer, c'est au Grand Prix. C'est mon premier soleil.
Pour n'importe qui, qu'on soit fan de Formule 1 ou pas, c'est incroyable à quel point le Grand Prix de Formule 1 amène une énergie estivale. C'est juste pour l'ambiance dans les rues, on dirait que même les gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a à Montréal dans ce temps-là, même si pas mal tout le monde le sait, mais quelqu'un qui est hors champ complètement va savoir que le Grand Prix a lieu. Puis on dirait que tout commence lorsque le Grand Prix arrive. Donc cette année, c'était. J'habite pas à Montréal, là. Je suis résident de Sherbrooke, donc je suis un peu loin, mais je le sentais aussi qu'il manquait ça dans mon été pour comme bien la partir. Donc on espère que ça va pouvoir revenir. Mais si je peux me permettre, je pense que ce que je trouve intéressant avec le calendrier qui a été lancé, c'est que c'est rassurant. Je pense que ils font preuve de beaucoup trop d'optimisme, mais en même temps, ça fait de mal à personne d'être un peu optimiste, puis de voir en le meilleur qui pourrait nous arriver. Donc, que de voir que le 21 mars, on pourrait débuter la saison en Australie, à Melbourne, que la saison pourrait se dérouler bien. Puis au pire des cas, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir des événements qui vont être annulés comme cette année. Il va y avoir des Grands Prix, peut-être comme celui du Canada, parce que je pense que c'est l'un qui est peut-être plus en danger en raison des nombreuses mesures que le gouvernement prend pour nous protéger. Alors, je pense que on est l'un des pays qui prend les mesures le plus au sérieux pour justement nous protéger. Donc, si jamais il commence à avoir des annulations, il y a toujours des grands prix ou des circuits qui ont sauvé la Formule 1 cette année, comme Imola, comme le Portugal, qui pourraient toujours venir pallier des annulations de dernière minute. Mais en attendant, je pense que c'est intéressant de se pencher sur un calendrier qui est pratiquement parfait, qui est une vision d'un monde parfait, là, je dirais, sans pandémie. Mais en même temps, je pense qu'ils peuvent peut-être réussir à faire quelque chose de bon quand même.
Mais aussi que en même temps cette semaine, il y a un annonce un vaccin moi qui est allemand des laboratoires Pfizer et que ça aussi il donne l'espoir parce que comment le fait la Formule 1 qui font tous les tests à tout le monde qui va au Grand Prix mais au moins je dis si ça est sécuritaire si ça va marcher au moins il peut au moins faire vacciner, ils sont tous en Europe pour faire vacciner tout le monde qui va avec les équipes ou tous les pilotes. Fait que ça aussi, ça va donner un peu plus de confiance aussi. Parce que à partir du moment que tu es vacciné, je pense que tu n'as pas besoin de faire des quarantaines en arrivant au pays qui y a quoi la Formule 1, c'est ça aussi. Mais comme tu dis, c'est un peu fou le calendrier, mais c'est correct quand même parce qu'il peut avoir le plan B comme cette année. Et cette année, on pensait
On était très peu optimistes, je me souviens là,
Oui,
de quelques
on a
podcasts
dit
qu'on a fait ensemble et
oui.
on commençait à se dire OK, peut-être qu'une saison de 10 Grands Prix, ça allait être difficile.
Oui,
Alors
c'est ça.
imagine, là, on va avoir un de 16 Grands Prix, si je ne me trompe pas, 10, ou peut-être même 17. Je vais vérifier pour être certain. Mais tu vois à quel point notre vision a changé du tout, tout, tout,
Ouais.
et à quel point la Formule 1 a réussi à faire un bon travail.
Non, il faut changer, il faut regarder à l'avance parce que sinon on va laisser se battre.
Moi, j'aimerais ça décortiquer un peu le. Je ne vous donnerai pas toutes les dates parce qu'il y en a quand même 23, ça pourrait faire long. On a mis le calendrier sur nos réseaux sociaux, donc si vous voulez le voir, il est toujours disponible. Mais moi, il y a un événement qui, bon, premièrement, j'aurais aimé voir, c'est le Vietnam, mais il y a un événement qui m'intéresse beaucoup, c'est le Grand Prix du Pays-Bas qui a été installé au. J'avais la date, je l'ai, le 5 septembre, et les organisateurs de ce Grand Prix avaient l'air très excités parce que ça tombe à un moment opportun pour eux. Comme au Grand Prix du Canada, nous aimons ça parce que ça commence notre été, c'est le 13 juin, ça commence à nous frétiller. Pour eux, ça tombe après une période de vacances et je pense que ça pourrait fonctionner à 100% si jamais la pandémie nous offre, si jamais il y a un vaccin et que ça nous offre l'opportunité, là, on est très optimiste, mais d'avoir un événement là, à pleine capacité, ce Grand Prix-là m'excite. C'est incroyable à quel point ça m'excite de voir ce Grand Prix-là arriver et enfin on pourrait le voir arriver en 2021. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée
Oui,
du Grand Prix des
tout palais sol,
Pays-Bas?
tout palais sol, tout s'attend, ce Grand Prix était tellement espéré qu'on était déçus et on pensait on va le faire sans public. Il dit non, pas question, on ne fait pas Grand Prix s'il n'y a pas
Non.
public. Et je dis, mais c'est ça, c'est bien et c'est la date que tout le monde attend parce que ça a pris tellement longtemps. En plus, les fans de Verstappen, ils se déplacent en Europe, ils se déplacent
Ah,
partout et ça va être comme le Mexique, j'imagine. Pas avec toutes les festivités et tout, mais avec le public et
la vague
l'excitation.
orange,
La vague orange, mais
on a
c'est
tous l'image des gradins bondés de chandail orange de Max lorsqu'il s'en va
ouais.
en Belgique ou en Autriche. Imaginez quand il va arriver dans son pays ou
Ouais.
j'ose espérer parce que pour moi, ce serait un rêve. Vous savez, je suis un fan de Max. Ce serait un rêve de pouvoir assister à l'un de ces événements prochainement, dans les prochaines années. Mais de voir cette vague orange-là qui va être dans tous les gradins, je ne pense pas qu'il va avoir beaucoup de rouge. Je ne pense pas qu'il va avoir beaucoup de noir. Enfin, ça va être du orange. Et écoute, je ne pense pas qu'on va pouvoir avoir un événement à pleine capacité, mais. Si jamais il peut avoir lieu. Puis, on va parler un peu du circuit qui me semble quand même intéressant. On en a déjà discuté, mais penses-tu que le circuit en tant que tel va pouvoir nous offrir une bonne course?
Mais c'est sûr que c'est un circuit historique, mais même s'il était, il était refait pour accueillir les Grands Prix, parce qu'il faut des raisons de sécurité et tout ça, mais ça a l'air d'un circuit quand même qui va donner de l'espectacle. On va voir, parce que ça fait longtemps que c'était le dernier Grand Prix là-bas, mais on s'espère aussi, pas juste pour la vague orange, aussi les circuits étaient tellement attendus, et ça a l'air excitant aussi. C'est comme dit, c'est un peu comme le dernier Grand Prix, San Marino. Était attendu, c'est juste que. Lui, le circuit était moins excitant parce
Ouais,
qu'il
un peu.
était pas, c'est juste la nostalgie. Mais.
Et puis, justement, en parlant de nostalgie, on n'a pas de. On n'a pas l'air d'avoir de grands prix en théorie nostalgique dans ce calendrier-là, à moins que justement qu'il y ait des événements qui commencent à se faire annuler. Mais il y en a un autre qui était attendu, malheureusement, il n'y se trouve pas. C'est celui du Vietnam. En raison de tout plein de raisons, il n'est pas encore présent. Il devait être le 25 avril. C'est la date qui est comme à déterminer. Ils
Oui.
doivent trouver un moyen de mettre un grand prix à cette date-là, mais au moins il y a déjà une date. Qu'est-ce que ça te fait de voir que le Grand Prix du Vietnam n'est pas encore dans le calendrier? Déçu?
Mais
Quel est ton.
non. Mais je suis pas déçue parce que c'est un des grands prix que j'ai dit. Pas bon sens. J'étais pas sûre comment ils vont faire un grand prix à Vietnam. Tu sais, comme les pays, tout ce qui passe là-dedans, c'est la même chose, pas pareil qu'à l'Arabie Saoudite, mais quand même, il y a des pays avec un taux de pauvreté tellement difficile qu'on se dit, comment est-ce qu'ils vont faire un grand prix, combien ça coûte, et qu'il y a des pays qu'il n'y a pas pour manger dans les pays, mais ils sont prêts à payer pour un grand prix. Mais c'est sûr, parce que je n'étais pas déçu de ne pas le voir, mais c'est sûr que je ne pense pas qu'il va revenir, parce que dès que j'ai vu dans les nouvelles, c'est qu'ils ont commencé à tout défaire, les circuits. Tout ce qu'ils ont préparé, les circuits urbains, ils ont commencé à défaire. J'ai vu des photos, ils étaient comme surpris, ils fuient, ils ont retiré des choses. Tout ce qu'ils commençaient à faire pour les Grands Prix, ils ont retiré. Fait que ça va prendre un gros travail pour remettre ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit que peut-être il va pas revenir, parce que si l'on défait, c'est comme
C'est que le plan est peut-être à l'eau. Moi,
oui, plein que.
l'une des choses qui me fait en sorte que je suis un peu déçu, c'est seulement à cause du circuit qui avait l'air tellement
Ouais.
assez intéressant malgré. Je pense pas que ça aurait été un circuit nécessairement avec beaucoup de dépassements parce que la vitesse avait l'air d'être vraiment extraordinaire pour un circuit urbain. Mais quand même, je pense que ça aurait pu quand même offrir une course intéressante, mais avec toutes les raisons que tu as nommées, la pauvreté de la population et tout ça, je pense que si on peut éviter d'aller dans des endroits comme ça, moi je me sens toujours mieux à la place de regarder un Grand Prix comme ça et de me sentir un peu mal. Je
Ouais.
préfère ne pas voir des Grands Prix. Donc, je pourrais vous donner quelques dates qui me semblent assez intéressantes à vous donner. Donc, la saison commencerait, comme j'ai dit, le 21 mars prochain. Il y a un Grand Prix qu'on attend tous. Le Grand Prix de Monaco qui est placé le 23, juste avant d'aller en Azerbaïdjan, le 6 juin. Un autre Grand Prix qui est aimé par beaucoup de gens, le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui est toujours à son endroit habituel, le 18 juillet. Et c'est peut-être mon Grand Prix favori, même si l'action n'est pas toujours présente, mais le Grand Prix de Belgique, c'est toujours un événement qui est sensationnel et
Oui.
il est installé le 29 août et on terminerait cette saison le 5 décembre à Abu Dhabi, tout juste devant le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui a fait jaser énormément dans les derniers mois.
Oui.
Ça m'intéresse pas d'en reparler parce qu'on en a quand même parlé beaucoup, il y a deux grands prix. pour toutes sortes de raisons. Mais ce qui me semble intéressant aussi de parler, c'est le 24 octobre, c'est le Grand Prix des États-Unis. On s'en va au Mexique comme d'habitude, avant d'aller au Brésil. Penses-tu que c'est trop optimiste de penser qu'un Grand Prix pourrait se donner au Brésil avec la situation actuelle qui est très
Oui.
difficile au Brésil? La gestion du coronavirus est assez limitée, même si on n'est pas dans
Oui,
un podcast de politique, mais qu'est-ce que
en
tu en penses?
Brasil, c'est pas juste hein, non plus la situation. C'est parce que, en théorie, les Grands Prix y avaient été annulés pour le gouvernement. Avant la pandémie, il était déjà, le gouvernement ne voulait pas de Grands Prix, il était comme annulé. Mais que maintenant, je ne comprends pas. Ils essayaient de faire autre chose, mais dans autre place, dans autre circuit. Mais le monde n'était pas d'accord avec ça. Mais que, il y a la question aussi, si c'est fait Grand Prix à Brésil, où?
En
Parce que...
théorie, selon eux, ils voulaient faire ça à Sao Paulo, mais encore là,
Ouais.
est-ce que c'est déterminé? Est-ce que c'est une décision qui est
Non, mais...
ferme? Je pense pas aussi.
Oui, mais parce que... C'est difficile parce que ils proposent des circuits qui n'ont même pas fait.
En plus,
En
c'est
plus, c'est
vrai.
qu'ils disent, ils ne font rien maintenant et ça ne se fait pas en 2 jours. C'est sûr, il y a le temps, mais c'est le Brésil, hein, ça ne marche pas comme
Exact. Et en plus, il y a cette notion aussi qu'il ne faut pas oublier dans la construction du circuit. Les délais devraient être plus longs en raison de la pandémie aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte qui font en sorte que, pour moi,
même si...
l'espoir de voir un Grand Prix au Brésil est assez mince.
Oui, c'est difficile. Il était aussi parce que même les circuits qui avait déjà, il était difficile. Il n'y avait pas de sécurité. Il était difficile de se rendre au circuit, même pour les équipes. Puis se faisait voler comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de situations aussi. Et à Brésil, ils ne pouvaient même pas faire les portes ouvertes comme ici les jeudis parce qu'il n'y a pas question de laisser rentrer le monde. Et que maintenant, je ne sais pas, je ne crois pas. Là, c'est optimiste. Au moins, ils ont mis
Astérix.
un petit
Mais
astérisque pour dire oui parce qu'il est dans les contrats. On essaye de respecter ça, mais.
c'est là aussi mon interrogation. Tu sais, la Formule 1 et Liberty Media présentement ne gagnent rien à le mettre dans le calendrier. Donc, moi, personnellement, avoir été eux, j'aurais probablement fait comme le 25 avril, puis j'aurais fait présentement, on n'a pas grand-chose. Puis si jamais le Brésil montre son intérêt pour avoir un Grand Prix, puis que les deux côtés, Liberty Media et le Brésil, s'entendent. Les gouvernements brésiliens s'entendent à un contrat et un circuit parce que pour accueillir
Mais
des Formule 1, ça prend un circuit.
il faut prendre en compte les contrats qui sont signés.
C'est vrai.
Parce que les contrats, ils sont déjà signés. Ça veut dire que Liberty, ils s'engagent. Je dis, je suis capable de remplir ma part, mais si l'autre part n'est pas capable de remplir son compromis, c'est lui qui paye. Parce que ce n'est pas juste que on peut sortir, rentrer des Grands Prix comme on veut non plus. C'est qu'il y a des contrats à respecter, il y a des contrats signés avec Montréal, avec tous les Grands Prix qui sont déjà là. Ils sont déjà signés, il y a un gros. Ça coûte cher aussi. Mais je pense que c'est ça aussi. Brésil, lui, il y a un compromis, il a déjà signé. Qu'est-ce que dit Liberty? Oui, je l'ai mis dans le calendrier, il est là, il remplit ma part de contrat. Mais que si l'autre part, il dit non, il n'y a pas Grand Prix, c'est ça que Liberty va dire. Mais il faut indemniser, il faut faire quelque chose, c'est sûr que c'est pas eux qui vont perdre.
Exact. Donc, il y a tout plein de. Il y a plusieurs raisons contractuelles, comme tu l'as expliqué,
Ouais.
qui peut expliquer expliquer notamment pourquoi plusieurs grands prix sont encore présents dans le calendrier, parce que nécessairement, tu ne peux pas tasser, justement, comme tu l'as dit, n'importe quel grand prix en pensant qu'ils ne seront pas prêts à accueillir aussi ton événement. Donc, il y a tout plein de choses à respecter. Tu as tout à fait raison. Maintenant, dans un tout autre sujet, moi, il y a un questionnement qui m'a passé durant. Abdou nous a conseillé de parler de ce sujet-là. Puis moi, j'étais très excité d'en parler parce que c'est toujours, toujours, toujours la même chose à chaque année depuis. Et là, je vous titille un peu, là, chaque année, on en parle. Est-ce que tout ou à peu près tous les pilotes seraient en mesure de gagner dans une Mercedes, que ce soit des courses ou un championnat? Et on en parle parce que Max Verstappen a fait quand même une déclaration au choc qui n'est pas rare, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, surtout de la bouche de Max Verstappen. Il a dit que 90, selon lui, 90% des pilotes pourraient gagner dans une Mercedes. Et moi, je lance le débat. Est-ce que tu penses qu'il a raison que présentement, avec les pilotes qu'il y a dans l'équipe et dans la Formule 1, est-ce que 90% des pilotes seraient en mesure de gagner un championnat avec la Mercedes, selon toi?
Regarde, il faut se remettre en contexte. Max a dit ça, mais aussi il explique que ça ne l'est rien à Hamilton.
Non, c'est ben exact. C'est ce que j'avais oublié de
mentionner. Parce qu'il y a des mots qui disent, lui, il parle parce qu'il est jaloux. Je suis d'accord avec lui en quelque chose. Mais de toute façon, si tu enlèves Hamilton, c'est Mercedes qui va gagner. C'est ouais. Sûr, il n'y a pas discussion aucune. Regarde, 2014, il est arrivé, il a gagné. Il n'y avait pas besoin de meilleurs pilotes, il n'y avait pas besoin de quelqu'un qui gagnait 5-4 titres, rien. Il juste gagnait parce qu'il y a la meilleure voiture et on fait un bon travail en rentrant dans la nouvelle réglementation. Il n'y a pas aucune discussion que les autres équipes ils juste essayaient de les rattraper, mais ils ne sont pas capables.
Puis,
c'est sûr que dans ce contexte-là, oui, c'est Mercedes qui va gagner. Est-ce que les 80% de la parille ils vont réussir à gagner avec la Mercedes? Je ne suis pas sûr, mais peut-être. Je ne vais pas dire de non, parce que sinon...
Exact, on ne veut pas non plus lancer des pilotes
non, dans... Non, je ne vais pas lancer de non, parce que...
Dans la rivière, là, mais non. On connaît quelques pilotes, notamment, oui. Qui ne seraient peut-être pas en mesure, mais on connaît aussi ceux qui seront capables de le faire. Là. On nomme des Max Verstappen, on pourrait nommer des Daniel Ricciardo qui donne quand même du bon travail dans les dernières années. Penses-tu qu'un Sébastien Vettel serait en mesure de gagner dans une Mercedes?
C'est sûr qu'il va gagner dans une Mercedes.
On est sur la même voie, c'est bon.
c'est sûr qu'il va gagner avec une Mercedes. Et Nico Rosberg, il a gagné.
Oui.
Il fait un bon travail, mais on ne peut pas dire que c'est le pilote qui a le plus talentueux. Lui, il y a beaucoup de travail, c'est pas à Raikkonen, il arrive, il fait rien, il fait même pas les simulateurs, il embarque, il fait la course, c'est ça. Mais il y a des pilotes qui travaillent beaucoup, mais oui, ils pourraient aussi, oui. Aussi, il y a autre chose. Est-ce que si tu penses, pauvre, que les pilotes qui sont derrière dans la parille, et derrière dans la grille, il y aurait la Mercedes. Et tant que Mercedes est la meilleure équipe, la meilleure auto, il ne va pas donner non plus l'auto à n'importe qui.
C'est ça. Tu mérites ta place. Ça aussi.
Mais oui, il faut que tu mérites la place. Si c'est, je ne verrai pas la Tifi dans la Mercedes.
Non.
Non,
Puis
mais
c'est rien à lui enlever non plus, mais
oui, il n'y a
il a pas
rien à l'aider.
d'expérience, il n'y a pas.
C'est sûr. Mais tu es la meilleure équipe, tu es le meilleur watou. Mais c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un que tu penses que c'est lui qui est capable de faire le meilleur avec la voiture. Peut-être il va pas faire comme Hamilton, mais il pourrait autant gagner. Parce que j'ai dit, si Rosberg il était capable de gagner, je pense que si on enlève Hamilton, on laisse Bottas, il va gagner. C'est le
Ah,
12e.
complètement.
Mais
Puis.
c'est le 12e. Toujours le pilote qui y, le 12e pilote, c'est lui qui est le 12e dans les championnats.
Puis c'est pas pour rien. Je pense que, tu sais, on l'a tellement répété ici, puis on pourrait même le refaire, mais la Mercedes n'est pas là pour rien. L'équipe en place travaille
Oui, c'est ça.
avec acharnement pour que cette voiture-là s'améliore année après année. Puis les haters ou les gens qui s'offusquent au succès de Mercedes ne comprennent pas à quel point cette équipe-là est extraordinaire, à quel point tous les petits détails sont faits pour que la voiture soit meilleure, pour que l'ambiance aussi dans l'écurie soit meilleure. Puis oui, Hamilton est dans cette voiture qui est surhumaine et surextraordinaire,
Sous-dépassé.
même surdépassée. Donc, et c'est certain que un Max Verstappen serait capable de gagner dans cette voiture-là et pas mal tout le monde serait en mesure, j'imagine. Mais il y a aussi le fait que tu dois avoir une bonne entente avec ton équipe. Donc, il y a quelques pilotes, on connaît leur caractère, on connaît leur façon de conduire, leur façon de faire. Et c'est là aussi que ça pourrait venir toucher parce que Hamilton fait très, très, très peu d'erreurs malgré que la voiture soit très fiable, dans une fin de semaine de Formule 1, c'est très rare que tu vas voir Hamilton faire une erreur. Et ça paraît aussi dans l'attitude de l'équipe et dans la manière dont un Grand Prix se déroule.
Oui, c'est ça. Mais comme je sais, quand avant, ça n'enlève rien à Hamilton. Tout ce
Complètement.
qu'il a réussi est complètement,
C'est à lui.
ça vaut quelque chose, c'est à lui, c'est lui qui l'a fait, mais ça n'enlève pas non plus que si Hamilton ne serait pas là avec le travail que fait Mercedes, les pilotes. O les pilotes qui vont mettre là-dedans, ils vont être capables de gagner aussi. Parce que les autres, ils s'approchent même pas, ils sont même pas proches de la voiture. Fait que c'est ça. Des fois, le monde est fâché parce qu'il dit, ah non, mais il parle tout le monde, que n'importe qui peut gagner avec sa voiture. Et je ne sais pas si n'importe qui, il peut gagner, mais la voiture, il va gagner.
Oui, puis il y a aussi le fait que moi, il y a peut-être un petit point qui vient me titiller un peu. Parce qu'on connaît la façon de faire d'Hamilton, on connaît tout ce qu'il peut offrir à une voiture et c'est à la manière dont il peut avoir un feedback de la voiture. Est-ce que tu penses que les autres pilotes seraient en une aussi bonne position pour donner un feedback sur la voiture et pour aider les mécaniciens à trouver les petits détails dans cette voiture-là qui ne fonctionnent pas. Parce que ça aussi, ça a un grand impact sur la performance de la voiture, là.
Mais, comme je continue à dire, ça n'enlève rien à Hamilton, mais il n'y a pas beaucoup de petites choses que ça ne marche pas dans la Mercedes.
C'est vrai.
Il n'y a pas de petites choses. La seule chose qui ne marche pas très bien, y même pas en contrôle del piloto. C'était qu'avant, il y avait la difficulté avec la chaleur.
Oui,
C'est la
dans les
seule
dernières années,
chose.
c'est vrai.
Les seuls problèmes qui les fait abandonner quelquefois la voiture, la Mercedes, c'est la chaleur et ça n'a rien à voir avec les pilotes, c'est les moteurs. Et on travaille encore aujourd'hui pour faire ça plus efficace. Mais il y a plein de pilotes qui peuvent donner un feedback. Il y a aussi les compromis de l'équipe avec qui ils travaillent aussi. Parce qu'on peut bien dire, oui, il y a deux pilotes, on donne la même voiture, c'est la même chose pour les deux, mais on sait que ce n'est pas la même chose pour les deux. Pour les deux, il y a une qui on travaille le plus avec. Et je dis ça, pourquoi? Parce que Rosberg, il était capable de briser. Il était capable d'aller chercher ce petit peu plus de chercher juste pour réussir à battre Hamilton. Et là, il fallait que l'équipe aussi, il donne son coup de pouce, pas le laisser tout seul là-dedans. Et ça démontre que si l'équipe y veut aider les pilotes, il est capable aussi de les faire gagner.
C'est vrai.
Je dis pas que Hamilton est pas bon. Oui, il est bon, extraordinaire, il fait pas d'erreur, jamais. C'est pour ça que lui, il gagne tout le temps et pas Bottas. Mais il faut que l'équipe il se concentre à travailler avec quelqu'un. Et Mercedes, il fait ça. Il maintient l'ambiance, il maintient l'équipe en bonne relation aussi. Parce que quand il y avait un bon pilote qui était disponible, plusieurs fois il y a de bons pilotes qui sont disponibles et Mercedes, il va pas le chercher. Y es bien a ver Bottas, porque gana para el campeonato y es Hamilton. Dice, ah, Alonso es disponible, Mercedes va para chercher. No, Mercedes dice, claramente, je veux pas de problema. Es eso.
Puis,
Pero eso aussi, es un factor importante dans son equipo.
complètement. Puis, tu sais, on en parlait, mais prochainement, Max Verstappen pourrait être disponible. Et jamais, je pense au grand jamais, ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettront pas Max dans les jambes de Hamilton pour toutes sortes de raisons. C'est leur pilote, c'est le meilleur pilote. Et jamais tu. Mercedes se mettrait dans un pétrin comme Ferrari s'est mis dans le pétrin en allant chercher. Et avec raison, ils devaient le faire, ils devaient amener Charles Leclerc avec eux. Mais en faisant ça, ils se sont mis dans le pétrin, ils se sont mis avec deux pilotes qui, bon, peut-être pas la première année, peut-être qu'il y a peu de gens qui auraient pu mettre beaucoup d'argent sur le fait que Charles Leclerc aurait pu être aussi dominant à sa première saison avec Ferrari, avec tout ce que ça implique, avec la pression et tout ça. Mais reste que ça a mis vraiment dans l'embarras Ferrari parce qu'il devait gérer deux pilotes qui, en
Mais
théorie, étaient premiers. Donc,
c'est ça le problème. Il a promis la même chose à les deux. Tu ne peux pas faire ça.
non.
Il a dit, toi, le premier. Et à l'autre, il a dit, toi, le premier. Tu as droit à demander des choses parce que c'est ta place. Et à l'autre pilote, il dit la même chose. C'est
Dans les
là où
médias, ils
Ferrari
font complètement la différence. Ils font comme
est.
si les deux étaient égaux, ou il y en a un qui est un petit peu plus haut, mais l'autre est tellement proche qu'il n'y a pas de différence. Mais c'est
Oui.
vrai qu'à l'interne, il y avait un autre discours.
Mais on savait, la première fois, c'est en Australie, Leclerc est arrivé, à la première fois, ils ont donné l'ordre d'équipe, il a dit non. C'est ça, là, on comprend. Et l'équipe, il a laissé jouer. C'est ça aussi.
C'est ça.
L'équipe,
C'est
il a laissé jouer, et tu sais, même si on touche une autre équipe, c'est là le problème que je vois à Red Bull. Parce
Oui.
que le monde, il dit, Pérez, il est tellement bon pilote, tellement de l'expérience, tellement pour battre Verstappen. Il dit, c'est là que ça marche pas. Parce que tu peux pas prétendre aller battre ton coéquipier quand tu sais que c'est lui qui est à la tête.
C'est lui qui amène
C'est lui qui
l'esprit
amène l'équipe.
marketing. C'est lui
Oui.
qui porte tout, en fait. Donc, c'est certain que. Putain, on ne veut pas s'attarder non plus, mais c'est certain que de voir un Hülkenberg, c'est beaucoup plus intéressant avec Red Bull parce qu'il va pouvoir te donner à peu près les mêmes performances que Perez, mais avec beaucoup moins de troubles. Avec le
Oui,
fait
c'est ça.
que Hülkenberg se fait plus petit. C'est rare qu'il va être impliqué dans des scandales. C'est rare qu'il va faire des grandes déclarations. C'est
Oui, c'est
quelqu'un
ça.
qui a un tempérament très calme, qui, ce n'est pas pour rien que les Verstappen, que ce soit le Joss depuis quelques jours, depuis quelques semaines, commencent à scander que nous voulons Hülkenberg avec Red Bull. Pour les gens qui écoutent rarement la Formule 1, qui pourraient nous écouter, ce
Oui.
n'est vraiment pas un hasard, là.
Non, non, c'est pas un Asari, c'est ça, on saute un petit peu del thème, mais c'est ça, c'est la question, c'est qu'est-ce qui amène Pérez? Tout le monde dit, ah, lui, il amène l'expérience, un bon pilote, oui, mais c'est ce que le tout aussi, c'est qu'il fait des déclarations
Oui.
incendiaires. Et après, on se retrouve dans le tout. Toute la principale juste de ça, tout Messi qui vient il vient prendre la parole et c'est ça que cette année je disais c'est ça que maintenant on dit Stroll il performe pas mais tu sais entre les douze oreilles on fait que les patiner dessous depuis que Pérez y était vencé de l'équipe.
Il ne faut pas oublier que Red Bull est une compagnie commerciale. Donc, ça paraît beaucoup plus que, mettons, si Mercedes fait ou Ferrari fait des, comme tu dis, des déclarations plus incendiaires, on dirait que ça passe mieux parce que c'est une marque de voiture qui est très élevée et tout. Red Bull, il ne faut pas oublier que c'est une compagnie commerciale qui vend de la boisson énergisante. Ils sont là en raison de la marque. Donc, il ne faut pas que la marque soit touchée non plus par des propos trop incendiaires. Donc, c'est pour ça que toutes ces raisons me penchent vers Hülkenberg et ça va être encore intéressant parce que Albon, dernièrement, a été vu c'est Abdou qui m'a montré ça sur les réseaux sociaux, mais Abdou a été a partagé dernièrement une publication et je pourrais aller voir, je pourrais être certain de qui ça venait là, pour bien donner la source. Je vais faire ça dans les prochaines minutes. Mais on voyait Alexander Albon marcher à côté de Pierre Gasly dans une
Oui,
publicité de AlphaTauri
AlphaTauri.
qui, bon, jamais Max aurait été vu avec AlphaTauri. Donc, ça nous montre que la porte a probablement été. Et Albon a probablement été mis à la porte sans l'officialiser dans la place publique, mais par Red Bull. Alors, tout ça fait en sorte qu'en ce moment, on est encore en questionnement à savoir
Ouais.
quel pilote va prendre la place d'Albon. Mais il y a toutes sortes de. Il y a Hülkenberg, il y a Perez. Alors, ça va être intéressant de voir jusqu'à quel point Red Bull va prendre la décision d'y aller avec un ou l'autre.
En plus que Max y a donné un petit peu son
Son
avis,
opinion, oui.
son
Tu sais,
opinion, ça je pense que ça vaut quelque chose.
surtout pour Red Bull qui
Ouais.
ne peuvent pas se permettre de perdre Max l'an prochain. Son contrat se termine en 2023, donc dans 2 ans. On va voir aussi avec la situation de Red Bull, est-ce qu'ils vont être en mesure notamment de performer avec le futur moteur qui est encore inconnu? Est-ce que ça va être Renault? Que ça va être
Oui.
une construction, reprendre la. Comment qu'on dit ça? C'est pas l'énergie, mais le modèle d'Honda qui vont être reconstruites. Écoute, toutes les possibilités sont là.
Oui, ça va être un peu difficile aussi. Et Max y a démontré que même si était jeune, si a fait des erreurs quand il a commencé, il a démontré que avec tous les Max est comme Red Bull. Red Bull, tu le donnes un moteur qui à peu près roule, il faut marcher l'auto. Ça marche très bien. Et Max fait la même chose. Tu
Exact, je suis
le donnes
d'accord.
une auto qui est à peu près performante, que ça marche, qui peut-être le moteur il va casser. Et lui, il est capable de réussir à se battre en avant. C'est ça qui fait Max que les autres pilotes Red Bull ils font pas.
C'est ça qui est frustrant aussi pour Max parce
Ouais.
qu'il est tellement prêt de réussir à aller challenger, aller défier un petit peu plus Hamilton pour le. En ce moment, Max ne peut pas faire, c'est aller défier assez Hamilton
Non.
pour lui faire faire des erreurs. Parce qu'on l'a
Non,
vu
parce qu'il
Hamilton faire
était
des
pas
erreurs en
proche.
2016 quand Rosberg
Ouais.
était là. C'est là qu'on a vu un Hamilton un petit peu plus, je dirais, stressé, un petit peu moins concentré. Et Max ne peut pas se permettre ça parce que le moteur en ce moment n'est pas assez fort.
Non, il arrive pas, il arrive pas. Et c'est la dernière course, il arrivait près de Bottas. Y este tellement, lui, comme si aurait gagné la course, quand il a fait le dépassement à Bottas, parce qu'il venait de dépasser un Mercedes, quand même. Presque à la régulière, même si l'auto, et après, il est cassé. Mais c'est ça que lui est capable. Mais maintenant, il ne peut pas s'approcher trop de Hamilton parce que la voiture, il ne donne pas. C'est ça. Et les joues de Mercedes, il est plus. Comme on le dit, toute l'équipe y travaille. Et on l'a vu la dernière course, comment ils ont travaillé pour mettre Hamilton à l'avant. Et ça marchait. Ça marchait très bien. Et on ne peut pas dire juste c'est parce que Hamilton est un super talent. Oui, lui est un super talent, mais il y a une super équipe derrière aussi.
C'est ça que ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que je vais parler pour ma batterie, mais je suis un fan de Red Bull pour cette raison-là. C'est une équipe qui réussit à faire tellement avec quand même peu. Tu sais, c'est pas l'équipe qui dépense le plus d'argent. Ils ont un budget d'à peu près, on parle de peut-être, bon, on n'a pas les chiffres exacts, mais peut-être de 400 millions. Donc, dans les
Moi,
circonstances, à peu près, donc, dans les circonstances, c'est très bon. Et c'est pour ça que, avec la nouvelle réforme et l'ordre de Concorde et tout ce qui vient avec et le fait qu'ils ont un budget, ça m'amène à penser que Red Bull pourrait devenir très dangereux pour les autres équipes parce qu'ils font déjà beaucoup avec
avec
moins que
petit.
les autres. Alors, j'imagine que la balance va se faire à un moment donné, puis que ça pourrait donner des bons résultats. Et je pense que Max a peut-être cette petite idée-là en tête et c'est pour ça que le départ de fait très mal à Red Bull en ce moment.
Oui, c'est ça, le départ de Honda. Et je pense qu'il n'était pas, il était pas prévu. On pensait qu'il allait rester longtemps dès qu'il était déjà avec Red Bull. Mais c'est ça, il arrive que ça là qu'ils se sont tannés d'essayer aussi de battre la Mercedes. C'est ça qui fait fuir les motoristes. Parce qu'ils mettent beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que toi, à la fin? Tu peux te battre pour la troisième place. C'est tout ce que tu peux faire. Regarde Ferrari et où? Et ils sont même pas là. Ils sont son moto et après la coupure. Et cette année, ça va un peu pire. Et je pense pas qu'ils vont revenir avec la même chose l'année prochaine. Allô? Tu es gelé.
Nous sommes désolés pour ce problème technique. La connexion de Marc-André a lâché, tel le moteur de Lewis Hamilton au Grand Prix de Malaisie 2016. De retour au podcast.
Nous sommes de retour après quelques petits problèmes techniques. L'Internet nous a encore compliqué les choses, mais nous revenons. Et puis, on parlait de justement le fait que Red Bull donne des difficultés aux motoristes et qu'en plus de tout ça, les motoristes ne sont pas capables de donner assez de performance pour aller rejoindre Mercedes. Et c'est ce qui complique la chose pour Red Bull. Donc, ça fait en sorte que la voiture, techniquement, est bien construite, mais le moteur n'offre jamais la performance de Mercedes.
Oui, c'est ça, c'est un peu difficile. J'imagine que les motoristes, ils sont tannés et c'est pour ça aussi que pour la Formule 1, c'est difficile d'être dramatique pour les marques d'auto parce qu'ils juste ven la Mercedes devant et je m'imagine qu'ils se disent pourquoi dépenser autant d'argent en tant qu'on peut aller à la Formule E. Regarde, la Formule E, il y a, je pense, 13 équipes maintenant. C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Ils ont dit, ils sont là. Ils n'ont même pas roulé beaucoup cette année. On fait comme c'est pas 6 courses à Allemagne. C'est tout ce qu'on fait. Et avec ça, ils sont capables de survivre. Ils ont comme très facilement parce qu'il y a toutes les marques d'auto qui sont là parce qu'il y a l'électrique aussi.
Est-ce que tu penses que la domination, et là on s'embarque dans une autre question, mais est-ce que tu penses que la domination de Mercedes est un peu toxique pour le sport de la Formule 1?
Un peu, oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés, ils gagnaient, et même qu'on parlait de qu'ils savaient déjà c'est quoi qui s'en venait avec la nouvelle réglementation, ils travaillaient déjà, fait que, il y a des mondes qui disent qu'ils étaient un peu à l'avance de tout le monde, et c'est pour ça qu'ils gagnent tout le temps. Et maintenant, je dis, c'est pas juste parce que c'est pas toxique. On va dire, oui, mais Red Bull y gagnait, mais Ferrari y gagnait. Mais oui, mais il y avait de la compétition aussi. Quand Red Bull gagnait son championnat, quand Vettel en 2012 gagnait son championnat, c'est une Ferrari avec qui lui se battait. C'est pas avec son coéquipier. C'est pas les 1-2. Pareil, oui, Ferrari a beaucoup gagné, peut-être il a dominé 12 années, pas 5, même s'il a gagné 5, les autres championnats, il n'était pas comme gagné à l'avance. Il y avait un bon coéquipier, Schumacher, mais il y avait beaucoup de pilotes comme Raikkonen, comme Montoya, comme Alonso, qui se battaient avec aussi. Il n'était pas loin, loin comme il est la Mercedes, mano.
Puis, est-ce que tu vois un futur? Est-ce que tu entrevois qu'un jour Mercedes soit moins dominant et que tu aies des compagnies comme on l'a dit en Formule électrique, qui sont nombreuses? Il y a 13 équipes, donc avec des compagnies comme Audi, tout ça, donc des compagnies qui sont assez intéressantes à voir quand même, là, des motoristes qui sont intéressants à voir. Est-ce que tu vois une ouverture bientôt là, d'une moins grande domination qui pourrait permettre à certains d'entrer. Mais là aussi, il a mentionné que la nouvelle entente de Concorde, il y a comme une taxe d'entrée et ça ne va pas aider la Formule 1.
Non, c'est ça, c'est difficile parce que aussi, ils ne changent pas la nouvelle réglementation. L'accord de la Concorde il était signé jusqu'à 2025 et ça ne va pas changer les moteurs dans la réglementation. C'est quel intérêt? Il n'y a aucun intérêt pour les marques de voitures juste venir de passer de l'argent dans la Formule 1 pour rien.
Puis on l'a vu avec Honda, c'est pas pour rien
Ouais.
qu'ils quittent. Bon, eux mettaient ça sur la faute de leur, ou du moins, ils mettaient ça entre les mains de leur nouvelle, vision écologique, mais je pense qu'il y avait autre chose derrière tout ça. Et ce qui se cache derrière tout ça, c'est bon, on met des hypothèses, on émet des hypothèses, mais qui était sûrement derrière tout ça, c'était un manque de performance visible, malgré qu'il y avait de l'amélioration. Sûrement qu'il se disait que jamais il allait réussir à atteindre Mercedes et que ça ne servait plus à rien de dépenser de l'argent.
Non, mais ça aussi, le développement de moteurs aussi hybrides, que ça ne marche pas dans les autos de rue. Maintenant, ça soit électrique, ça soit au gaz, mais ça ne marche pas les hybrides et ça marche moins aussi. Et que je pense que c'est là que Honda y a raté le coup parce que si son moteur n'est pas bon pour la Formule 1, après tu essayes de mettre la technologie dans tes autos, mais ça marche pas très bien.
Ça sert aussi de publicité, la Formule 1. Je pense que tu l'as mentionné.
Oui, ça. Comme ça mal tombé pour Honda aussi les années McLaren, il y a eu tellement de. Ça l'a fait tellement de mal, Alonso. Oui, es que yo pienso que hay un gros impacto, sí, dans ses revenus. Le monde
Exact.
voulait pas, mais c'est ça. Ma fille était très fan de Alonso, mais quand on disait, ah, oh, on regarde pour Honda, et il disait, oh, non, c'est que.
C'est vrai qu'ils ont dit
Ça,
non.
c'était pas bon non
C'est
plus.
vrai. Tu as tout à fait raison. Techniquement, les fans d'Alonso ou tout simplement les gens qui suivent la Formule 1, j'imagine que dans les dernières années, ils ont peut-être moins acheté d'Honda et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai été justement, t'amènes le point. J'ai été surpris du départ d'Under parce que il recommençait à retrouver un semblant de normalité et de performance qui était encourageante. Et aussi, l'énergie de Red Bull amenait à Honda à être plus visible. Je pense qu'ils ne se sont jamais cachés qu'ils étaient fiers de leur partenariat. Ils étaient fiers de la bonne discussion, de la bonne entente entre les deux. Et moi, je me disais, l'image de la marque Honda commence à être encore meilleure. Bon, c'est seulement pour la communauté de Formule 1, parce que les gens qui ne s'intéressent pas à la Formule 1, visiblement, ils ne connaissaient pas l'impact qu'a eu les mauvaises performances d'Honda dans la voiture de McLaren. Mais les gens qui sont quand même nombreux, là, on parle d'une communauté mondiale, on dirait qu'Honda réussissait à retrouver une semblant de normalité là, et de meilleure performance.
Oui, il retrouvait un petit peu mieux, mais en même temps, j'imagine qu'il disait, mais c'est mieux quitter comme ça, que quitter comme il était avec McLaren. Au moins, ils ont démontré qu'ils ont été capables de faire quelque chose de mieux aussi. Mais il ne faut pas oublier aussi que Honda, il fait la moitié des moteurs pour l'indiquer aussi.
C'est vrai.
Et
C'est vrai.
ça, c'est la deuxième fois de suite qu'ils gagnent l'Indy 600. Ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est la chose qu'ils disaient, mais pourquoi se battre dans la Formule 1 à dépasser de l'argent? Parce que il pouvait faire, il y a la moitié de la grille des IndyCar. C'est pas n'importe quoi qui amène avec les moteurs Honda et ça marche. C'est sauf que je dis, peut-être ils vont se tourner avec la Formule 1 comme tout le monde il le fait. Mais Mercedes, s'il y a une équipe de Formule 1, elle est seule qui reste comme hors del groupe, c'est Ferrari. C'est les seuls.
Et pour terminer cette discussion, on va continuer avec. On va mettre la table justement pour la Turquie, mais pour terminer ce segment de cette discussion, j'aimerais ça utiliser une phrase qu'un combattant de UFC a utilisée à nombreuses reprises dans les dernières années. Notre Canadien Georges St-Pierre, qui le mentionnait souvent, il vaut mieux quitter en ayant de bonnes performances là, au plus haut sommet. Et Honda, présentement, le font. Va terminer sa saison de façon très honnête avec Red Bull. Oui, ils ne vont pas avoir réussi à les rejoindre
Mais
Mercedes, mais au
il reste
moins,
encore 2021,
c'est vrai, on l'oublie cette saison-là. Moi, toi, tu t'oubliais qu'on était encore dans la saison, mais moi, je
Oui.
suis qu'il en reste une.
Oui, toi, tu oublies qu'il reste un, moi, j'oublie que
C'est vrai,
2020, ça
il en reste
existe.
une. Mais en voyant les améliorations d'Honda, on peut seulement voir une meilleure saison l'an prochain et tu as tout à fait raison.
Ouais.
Alors, passons maintenant, mettons la table pour ce Grand Prix tant attendu qui était, bon, disons, surprenant en début de saison quand on a appris la nouvelle. Je pense que ça a surpris un peu la sphère, la communauté de la Formule 1, mais ça le fait beaucoup d'heureux. Est-ce que tu serais en mesure de me donner un peu d'infos sur ce Grand Prix-là? À quoi tu t'attends? C'est quoi ton sentiment pour ce Grand Prix?
Mais pour moi, la Turquie, ce circuit, c'est comme les meilleures inspirations des tics. Ah, ok. Parce que je voyais que ça bougeait plus, mais t'es revenu. C'est ça. Fait que la Turquie, pour moi, c'est un circuit impressionnant. C'est beau. C'est comme, pour moi, la comparaison, c'est avec celui des États-Unis. C'est un peu, il y a des bonnes courbes, des rectes, des montées, De tout, fait que les pilotes là, ils vont s'amuser, c'est sûr, ils vont s'amuser. C'est un bon circuit, je l'aimais beaucoup. La seule chose qui ne marche pas en Turquie, c'est qu'il n'y avait pas de public, mais maintenant, il n'y a pas de problème. Il aurait pu avoir des publics, mais ils ont cancellé ça à la dernière minute parce que l'Europe était très touchée pour la deuxième vague, fait que on a arrêté les publics, mais je m'attends à une très bonne course où les pilotes ils vont s'amuser, c'est sûr. Et on espère que il y a un record de Montoya là-bas.
Oui,
On va
pour
voir si Hamilton il va soumettre des records.
qui, avec la performance des voitures de cette année,
Ouais.
en théorie, ça devrait être un record qui, bon, je parle peut-être en dessous de mon chapeau, mais devrait être assez facile à battre dans les circonstances. Bon.
Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas de Grand Prix, fait que c'est il y a la chance.
Exact. Je pense que c'est possible de le faire. Mais ce qui est intéressant aussi, tu l'as mentionné, c'est un Grand Prix qui est bon, quand même assez intéressant pour les pilotes. Est-ce qu'il y a des ouvertures, beaucoup d'ouvertures pour dépasser ou si ça, on parle peut-être d'un Grand Prix beaucoup plus tranquille, pourrait être à la limite quelque peu endormant?
Non, non, Turquie n'était pas endormant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner cette année avec les voitures qu'on
Un
a.
peu plus grande, grosse et
Oui, mais ce n'était pas endormant. Les circuits, je pense que ça avait été plus amusant que Imola, c'est sûr. On peut chercher un peu Portimao, mais. Ça va être mieux que Imola, c'est sûr. Je m'attends à une bonne course. Et en plus, il est dans les candidats pour remplir les trous qu'il laisse bien.
Ce qui serait assez étonnant, je pense que le résultat de ce Grand Prix va donner justement raison ou à tort la Formule 1 de peut-être se lancer dans l'aventure pour l'an prochain.
Oui.
Mais tu sais, on s'attendait à des, disons-le, à des partisans, mais je pense que les billets étaient annoncés à des prix, à de minces prix, là. On parle peut-être de 10 $ pour assister au Grand Prix de Turquie. Alors, finalement, les gens vont peut-être pas se faire rembourser un grand montant pour.
Non, ce n'est pas un gros remboursement, mais ils ont quand même annulé le public parce qu'ils trouvaient que c'était trop. Et en plus, la Turquie, il veut bien faire les choses. Et ça fait longtemps qu'ils se battent pour rentrer dans l'Union européenne. Ils essayent de faire bien pour voir si un jour ils vont réussir.
Exact. Puis, je suis en train de regarder le circuit. Il y a quelques endroits intéressants. Là, on
Oui.
parle de. Bon, je viens de perdre l'image, donc je n'ai plus les virages. Mais il y a quelques virages, là, surtout au départ. On voit que c'est un. À vue d'oiseau, c'est un circuit qui est assez sinueux. C'est un circuit qui a beaucoup de courbes. Est-ce que tu l'as dit, les pilotes vont s'amuser, les pilotes vont aimer aller en Turquie. Y a-t-il des pilotes, selon toi, qui, avec leur style de pilotage, vont préférer ce circuit-là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont moins être tentés d'aller en Turquie?
Mais je pense qu'il y a des pilotes qui sont, c'est sûr, les gens, les nouveaux Rosell, tous les gens, c'est sûr qu'ils vont pas se sentir pareil parce que oui, ils connaissent pas, mais ils sont habitués au simulateur aussi, c'est pas la même chose comme les pilotes Kimi, c'est un pilote de circuit. Raikkonen, c'est sûr que lui, il se rappelle de quelque chose là-dedans. On va voir. Mais Verstappen aussi, c'est sûr que le circuit, il va aimer, il va s'amuser. Hamilton, je ne sais pas, parce que lui, des fois, il n'est pas confortable.
C'est vrai, surtout
Il
dans
est.
les nouveaux circuits, on a
Oui.
vu que Bottas le surpassait dans les essais libres, dans la qualification des fois aussi, mais
Oui.
On parle de Q1 et Q2 parce que sans rien enlever à Bottas, Hamilton semblait exploser au moment d'arriver en Q3 et réussir à avoir la première position à la course. Mais tu as raison de le mentionner, Hamilton a l'air d'avoir de la difficulté à s'adapter. Puis ça
Oui.
peut être un élément important à ressortir de ce Grand Prix. Ça peut
Oui,
être
c'est
une
ça.
possibilité de se dire que Hamilton va peut-être connaître des difficultés et pourrait en sorte faire en sorte que le spectacle soit meilleur.
Oui, c'est ça. Il va connaître des difficultés, mais peut-être il va gagner encore parce que c'était pas facile le dernier, mais quand même, tout était de son côté finalement pour que c'est lui qui amène la victoire. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe, mais je pense que ça va être un bon coup. Je pense que je ne vais pas m'endormir cette fois-ci.
C'est vrai que cette année, malheureusement, il y a quelques grands prix où on a eu la difficulté à rester éveillé. Donc, justement, j'ai retrouvé l'image du circuit. Il y a quelques virages là, qui mettent l'eau à la bouche, là, dont le 7 où c'est vraiment un virage qui est en montée, mais qui est quand même franc quand même. Donc, il y a quelques lignes droites là, après le virage 10 et
Oui.
le virage 11. C'est une longue ligne droite, le 11
Oui.
qui termine un virage. Donc, je pense que ça va intéresser pas mal tout le monde. Et moi, je serais curieux. J'ai hâte à ce Grand Prix pour le moment, mais je vais espérer qu'il revienne en 2021 parce que c'est sensiblement un très beau circuit et je m'attends à beaucoup d'action. La seule chose que je ne suis pas sûr, et peut-être tu vas être en mesure de me répondre, mais ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sable en Turquie. Là. Pas l'air d'avoir
Non.
beaucoup de bacs de sable.
Non, 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 non. Il n'y a pas beaucoup de salle. Et regarde, je vois qu'ils ont mis quand même les deux grandes lignes. Il y a deux zones pour les DRS, parce qu'il y avait, il y a deux grandes, la deux lignes pour dépasser aussi. Non, c'était. J'ai pas vu depuis longtemps, mais dès que je me rappelle, c'est un circuit un peu à la aux très ample, bien fait, mais que je pense que ça va être correct. Ça va être, et je pense qu'il va pas avoir la difficulté à dépasser non plus.
Et moi, en terminant, ce que je vais surveiller, c'est l'attitude de Liberty Media et des commissaires par rapport au
Ah, Paul.
dépassement de piste. On sait à quel point ils sont sensibles cette année. Et en voyant le circuit, on n'a pas encore vu personne rouler sur le circuit, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de virages qui peuvent donner l'impression de dépasser un petit peu trop la zone de la piste. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de pénalités remises. Bon, ce n'est pas des pénalités de temps, bien sûr, mais ce sont des temps qui sont annulés. J'ai l'impression qu'il va en avoir plusieurs là, en fin de semaine parce qu'il y a des virages qui sont assez évitants, disons.
Oui, c'est ça, mais ça dépend, hein, ça dépend, parce que c'est pas tous les virages qui sont gagnants. Des fois, si tu sautes de la même s'il n'y a pas de vague de gravier, et c'est le pilote, il est perdant. Okay. On va voir qu'est-ce qui se passe dans la première, et ça est libre pour voir, c'est où aussi les commissaires qui vont mettre les conseils, les consignes aussi. Quand ils vont avoir la première contact avec les circuits.
Ça
J'ai
prendra pas
hâte.
beaucoup de temps, ils vont mettre leurs balises. On les connaît depuis cette année.
Oui, mais. Oui, le dernier Grand Prix était. Parce que des fois, c'est beaucoup. Des fois, quand tout le monde fait la même chose, on dit, mais c'est la ligne de course maintenant.
C'est correct. Écoute, à un moment donné,
Ouais.
ça prend. C'est pas pour rien qu'il y a une ligne de course, mais je trouve que la sensibilité des commissaires cette année est encore pire qu'à l'habitude. Et ça nous donne des moments cocasses, des fois, avec des pilotes qui
Ouais.
pensaient ne pas l'avoir dépassé, mais tu sais, ça va tellement vite que
Ouais.
finalement, ils vont avoir dépassé et ils ne ils n'y peuvent rien. Alors, c'est ce qui met fin à ce podcast qui a été assez intéressant avec quelques débats sur Hamilton et sa fameuse voiture de Mercedes. Alors, merci beaucoup, Anna-Maria, d'avoir été là.
Non, merci. Merci à toi.
C'est toujours un plaisir de te parler. Et en plus de tout ça, c'est le dernier Grand Prix avec en étant deux, alors que Abdou sera de retour potentiellement la semaine prochaine. Donc, vous pourrez entendre sa voix mielleuse et ses blagues sur Liverpool et tout ce qui vient avec.
Oui.
Mais nous avons très hâte de le retrouver. Alors, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes Spotify, SoundCloud, je pense.
Non, c'est Balado Québec.
Apple Podcast.
Balado Ensuite, Québec.
Vous avez Balado Québec et tout ce qui vient avec Google Podcast. Et puis, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook et Instagram. Communiquez avec nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre avis sur les sujets que nous pouvons amener ou même tout simplement débattre sur les sujets chauds que nous avons amenés au cours du Grand Prix. Alors, n'hésitez jamais à intervenir avec nous sur les réseaux sociaux. C'est toujours un grand plaisir de parler avec nos internautes et nos auditeurs. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!